Le journal vous est présenté ce soir par Anne Fauquemberg. Bonsoir à vous.
Bonsoir Olivia, bonsoir à tous.
Et à la une de l'actualité de ce dimanche 14 février.
Aux États-Unis, la plus haute instance judiciaire, la Cour suprême, vient de perdre son membre le plus conservateur. Et la mort d'Antonin Scalia hier au Texas pourrait remettre en cause la balance idéologique dans le pays. La bataille s'annonce rude pour le remplacer. Explication Charlotte Alix au début de ce journal. La France appelle à la cessation immédiate des bombardements de la Turquie en Syrie. Deuxième jour de l'offensive d'Ankara sur des positions kurdes dans la région d'Alep. La correspondance de Laure Stéphan dans un instant. Le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, devrait annoncer officiellement sa candidature ce soir pour la primaire à droite à la télévision, après avoir clôturé le Conseil national de son parti ce matin. Nous entendrons le récit de Yannick Falt. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin annonce son ralliement à Alain Juppé. À 18h15, de la politique, l'après-remaniement au programme de dimanche et après.
Oui, à gauche, malaise et déception, comment y répondre? La stratégie de François Hollande peut-elle s'avérer payante? On en parle avec mes invités. Clémentine Autain, qui est conseillère régionale d'Île-de-France sous l'étiquette Front de Gauche, et avec Frédéric Savicky, politiste, professeur de sciences politiques à Paris 1.
Et avant de vous retrouver, Olivia, nous serons avec Véronique Pellerin et Valérie Segond pour la chronique économique. Il était adulé par les conservateurs et avait même expliqué un jour être amoureux de la Constitution. Antonin Scalia, le doyen des juges de la Cour suprême des États-Unis, est mort hier dans son ranch du Texas. La Cour suprême se retrouve désormais en égalité parfaite avec 4 juges conservateurs et 4 libéraux. Le remplacement du magistrat en pleine année électorale s'annonce donc crucial, mais également très compliqué. Barack Obama affirme qu'il a bien l'intention de nommer un remplaçant, mais il a besoin pour cela de l'accord du Sénat au main des Républicains. À New York, la correspondance de Charlotte Alix.
La vigueur du bras de fer qui s'est engagé dès l'annonce de la mort du juge Scalia est à la hauteur de l'enjeu. Les conservateurs ont perdu un allié. Le voir remplacé par un libéral bousculerait la balance idéologique du pays en faisant clairement pencher cette balance à gauche. Les Républicains veulent donc que la nomination d'un nouveau juge revienne au prochain président et ils appellent pour cela le Sénat à bloquer toute nomination par Barack Obama.
Lors d'une année électorale, il y a une longue tradition qui consiste à ce qu'un président en fin de mandat renonce à nommer un juge à la Cour suprême. Le devoir du Sénat est de conseiller et d'approuver. Et le conseil du Sénat aujourd'hui est qu'un président en fin de mandat ne peut pas changer l'équilibre de la Cour suprême.
Pour le candidat Ted Cruz, l'élection présidentielle est donc devenue un référendum sur la Cour suprême. Mais dans son hommage au juge Scalia, Barack Obama a fait savoir qu'il n'entendait pas renoncer à son devoir.
J'ai l'intention de remplir mes responsabilités constitutionnelles pour désigner un successeur. J'ai tout mon temps pour le faire et le Sénat a le temps de remplir ses responsabilités. C'est une responsabilité qui dépasse le cadre partisan, qui touche à notre démocratie.
Stratégiquement, Barack Obama devrait désigner une personnalité centriste, mais le Sénat pourrait refuser d'auditionner cette personne. Une manœuvre risquée car les démocrates ne manqueront pas d'accuser les républicains de bloquer une fois de plus les institutions américaines.
Les explications de Charlotte Alix. La France appelle à la cessation immédiate des bombardements de la Turquie en Syrie. Malgré les promesses d'une trêve à Munich, l'armée d'Ankara bombarde pour le deuxième jour consécutif des positions kurdes aux alentours de la ville d'Azaz dans la province d'Alep. Bombardement également fermement condamné par le gouvernement syrien qui appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à mettre fin, je cite, aux crimes du régime turc. À Beyrouth, les précisions de Laure Stéphan.
Officiellement, c'est en riposte à des tirs depuis des positions kurdes en Syrie que l'armée turque a une nouvelle fois bombardé la province d'Alep aujourd'hui. Des obus de mortier lancés par Ankara ont ainsi atteint des positions du parti kurde de l'Union démocratique, le PID, aux environs d'Azaz. C'est près de cette petite ville au nord d'Alep que les combattants du PID se sont emparés il y a quelques jours d'un aéroport militaire aux mains de brigades salafistes anti-Assad. Accusés par l'opposition syrienne de faire le jeu du régime de Damas, les Kurdes profitent de l'avancée depuis plus de 10 jours des forces russo-syrienne dans le nord-ouest d'Alep pour marquer de nouveaux gains territoriaux. Ils veulent faire la jonction entre leur position à Afrin au nord-ouest d'Alep et celle de Kobané au nord-est de l'ancienne capitale économique, des positions distantes d'une centaine de kilomètres. Et c'est bien cette progression des forces kurdes non loin de la frontière qui semble provoquer l'offensive turque. Pour Ankara, qui considère le PID comme terroriste, c'est une ligne rouge. Les avancées des Kurdes dans le nord de la Syrie l'été dernier avaient déjà provoqué la colère d'Ankara. Washington, qui soutient le PID pour pour combattre les djihadistes de l'organisation État islamique avait alors tenté de calmer les tensions. Hier soir, les États-Unis ont demandé à Ankara de cesser ses bombardements. Mais jusqu'ici, la Turquie inquiète des avancées kurdes, mais aussi de la déroute des groupes rebelles qu'elle parraine dans la région d'Alep, semble faire la sourde oreille.
Et toujours concernant la crise en Syrie, le président américain a parlé par téléphone avec son homologue russe, Vladimir Poutine, ce dimanche. Il lui demande de mettre fin aux frappes de l'armée russe en Syrie contre des groupes de l'opposition modérée. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite, qui a envoyé des avions de chasse en Turquie, attend un éventuel feu vert de la coalition internationale pour envoyer des troupes terrestres. Le pape François continue aujourd'hui sa visite au Mexique. Il est cet après-midi dans l'une des villes les plus dangereuses du pays, Ecatepec, rendue tristement célèbre pour ses nombreuses disparitions et assassinats de femmes. Bonsoir Sarah Maquet.
Bonsoir Anne.
Le pape François est surnommé le pape des périphéries et cela se confirme avec Ecatepec, une ville pauvre de la banlieue de Mexico.
Oui, banlieue proche, Ecatepec de Morelos, 20 minutes du centre de Mexico en métro. Ville périphérique surpeuplée, pauvre et de plus en plus connue, vous l'avez dit Anne, pour ces cas de féminicide. Alors sur le sujet, pas de statistiques officielles, mais un journaliste mexicain, Humberto Paget, a enquêté. Selon lui, rien qu'en 2011, près de 600 femmes ont été assassinées dans l'État de Mexico, où se trouve Ecatepec, et plus de 1000 autres femmes auraient disparu. La journaliste française Camilla Panard vient également de publier un livre sur le sujet. Elle rappelle les cas similaires à la frontière avec les États-Unis au nord du Mexique, à Ciudad Juárez, dans les années 90. 400 femmes avaient alors disparu, selon Amnesty International, des cas pour la plupart toujours non résolus. Et c'est bien l'impunité qui explique la multiplication des féminicides au Mexique, selon Camilla Panard. Libres de leurs crimes, les cartels de drogue diversifieraient ainsi leurs sources de revenus en enlevant des jeunes femmes isolées pour qu'elles deviennent esclaves sexuelles avant de les tuer. Aujourd'hui, l'État de Mexico est le plus touché du pays. Un observatoire citoyen contre les féminicides vient d'être mis en place pour demander à l'État mexicain de réagir. Le pape François lui devrait également appeler aujourd'hui à Ecatepec les évêques de l'État de Mexico à se mobiliser pour que cessent rapidement et définitivement les violences contre les femmes.
Merci Sarah Maquet pour vos précisions. Le pape François rencontrera par ailleurs demain des communautés indigènes du Chiapas à l'extrême sud du pays. Le Conseil national du Parti Les Républicains s'est achevé ce midi avec le discours de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État a présenté un texte d'orientation amené à devenir la base d'un projet collectif en vue de 2017. Un texte dont les lignes très à droite seront soumises après amendement à la validation par vote des adhérents. À 9 mois de la primaire à droite, la démarche a néanmoins été boycottée par de nombreux ténors, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire ou encore Nadine Morano. Et le débat continue au sein du parti sur le positionnement politique à avoir. Le reportage de Yannick Falt.
La passe d'armes du jour est signée Wauquiez Raffarin. Laurent Wauquiez, vice-président délégué du parti, tenant d'une ligne très à droite, ligne validée pour lui par sa victoire au régional en Rhône-Alpes-Auvergne.
La France de retour, c'est un pays qui transmet à nouveau ses valeurs. La France de retour, c'est un pays qui ne change pas de nature. La France de retour, ce n'est pas à la République de s'adapter aux étrangers, c'est aux étrangers de s'adapter à la République.
Laurent Wauquiez très applaudi, il a même droit à une ovation debout. Il est chaleureusement félicité par Nicolas Sarkozy qui en a fait son numéro 2. Jean-Pierre Raffarin, l'ex-président du Conseil national, est visiblement moins fan. Lui qui défend un positionnement plus modéré, plus centriste.
Bientôt, naturellement, je proposerai que Wauquiez soit le ministre de la Fraternité.
Une fraternité qui a fait cruellement défaut ce week-end. Nicolas Sarkozy voulait faire du rendez-vous une démonstration de force sur le mode « tous derrière et lui devant ». Mais ses principaux rivaux pour 2017, Alain Juppé, François Fillon et Bruno Le Maire, ont boudé aujourd'hui son discours sur la ligne politique du parti.
Ce soir, Nicolas Sarkozy sera sur TF1 à 20h. Il devrait annoncer officiellement sa candidature pour la primaire à droite. L'ancien président de l'UMP, Jean-François Copé, sera lui sur France 2. Alain Juppé se fait lui toujours discret. Le maire de Bordeaux cultive sa bonne courbe de popularité auprès des Français. Bonsoir Frédéric Savicky.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à Paris 1, malgré le ralliement officiel cet après-midi de Jean-Pierre Raffarin à Alain Juppé, le maire de Bordeaux se révèle plus éloigné du parti Les Républicains, à la différence de Nicolas Sarkozy. Peut-on gagner une élection présidentielle sans avoir le parti derrière soi ?
Bah écoutez, d'une certaine façon, ça a permis. La situation fait penser à François Hollande en 2012. Il avait certes été premier secrétaire du Parti socialiste, mais c'était pas le secrétaire sortant. Il a néanmoins été investi. Donc, en tout cas, il y a un cas au moins qui falsifie votre hypothèse. Non, je pense que Alain Juppé, il fait un peu la course en tête dans les sondages par un positionnement effectivement qui est plus au centre droit, même si il est amené ces derniers temps à un peu droitiser ses positions. Et effectivement, Nicolas Sarkozy est un peu en perte de vitesse, donc il est obligé de radicaliser son discours et d'enfoncer le coin, d'apparaître comme jouant en quelque sorte les militants contre les électeurs. Il n'est pas sûr qu'au final ça lui profite, parce que si effectivement la participation est ample, il est fort probable que les électeurs de droite et du centre fassent un peu comme les électeurs de gauche de 2011-2012, c'est-à-dire qu'ils votent pour celui qui apparaît comme en mesure de gagner.
Merci Frédéric Savicky, et à tout à l'heure dans Dimanche et Après. 18h10 sur France Culture, la chronique économique avec ce soir Valérie Segond et Véronique Pellerin. Bonsoir Véronique.
Bonsoir à tous, bonsoir Valérie. Alors depuis le début de l'année, les bourses décrochent, le mouvement est même violent. Depuis fin avril, les bourses de Paris, Londres, Tokyo et Francfort ont perdu 25%, celles de Madrid et de Milan plus de 30%, celles de Shanghai 37%. Les valeurs bancaires sont particulièrement attaquées. Alors, la question est simple, de quoi les marchés financiers ont-ils peur ?
Vous avez raison, pourquoi les banques ? Sommes-nous revenus en 2008 quand l'engagement des banques sur l'immobilier allait déclencher une crise systémique ? Eh bien non, les banques ont nettoyé leur bilan. Alors sommes-nous en 2011-2012, lorsque les banques portaient le risque souverain, les dettes de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal ? Non plus. Les banques sont recapitalisées, elles sont solvables, elles sont liquides. Alors pourquoi les banques ? Par nature, les banques sont les courroies de transmission de tous les risques. Ce qui veut dire que si certains risques se traduisent en créances douteuses, puis en défaut de paiement, je pense à ce qui peut se passer en Chine, dans les pays producteurs de pétrole en difficulté comme le Venezuela, ou au Royaume-Uni s'ils sortaient de l'Europe, s'ils se concrétisent, donc ces risques viendront réduire leurs profits. Ce que l'on voit, c'est cela. Le coût de l'assurance des banques contre les défauts de paiement sont en train d'augmenter. De même, autre ponction sur leurs bénéfices, la baisse des taux longs ainsi que la baisse des taux des banques centrales sur les dépôts bancaires en territoire négatif. Ces baisses devraient leur coûter de l'argent. Mais tout ça, elles peuvent l'absorber.
Donc, nous ne sommes ni en 2008, ni en 2012. Alors, où sommes-nous ?
Non, mais alors cela dit, au-delà des banques elles-mêmes, les marchés disent d'autres choses dont on n'est pas sûr que tout soit parfaitement rationnel. Il redoute un effondrement de l'activité chinoise qui amènerait la Chine à faire chuter le yuan et à se livrer à une guerre d'échange. Est-ce que cela va se produire ? C'est difficile à dire. Ils craignent aussi que la chute des prix du pétrole ne traduise un retournement de la conjoncture mondiale que l'on n'aurait pas encore vu. Quand on regarde la demande mondiale, on ne voit pas encore de ralentissement. Ils craignent enfin un retournement de l'économie américaine. On ne sait pas si ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas plutôt un grand mouvement de déstockage et un ralentissement des investissements pétroliers, car les ventes de détail, sorties vendredi, là, restent bonnes. Ce qui est frappant, c'est que toutes les sociétés qui annoncent leurs résultats actuellement, je pense à l'automobile, aux banques, aux assurances, qui sont des précurseurs, ces sociétés ne voient pas dans leur activité ce ralentissement qu'annoncent les marchés. Alors, le risque est donc plutôt que les marchés financiers nourrissent ce qu'on appelle des anticipations autoréalisatrices, c'est-à-dire que les ménages suspendent leur consommation et les entreprises diffèrent encore leurs investissements. En clair, que cela casse le cycle de la reprise qui, rappelons-le, n'est pas très fort. Le risque immédiat, il est là.
Est-ce que les banques centrales vont arriver à calmer les esprits ?
C'est bien toute la question. Est-ce qu'il suffira aux banques centrales du G20, qui vont se réunir à la fin du mois, qu'elles vont garantir ensemble la stabilité des marchés financiers ? Le problème, il est double. D'abord, c'est ce qu'elles font depuis 2008, en sortant toutes leurs armes non conventionnelles, et on ne voit pas très bien ce qu'elles peuvent faire d'autre. C'est d'ailleurs une des grandes inquiétudes des marchés qui se disent qu'elles n'ont plus de cartouches pour venir au secours de la planète financière. Deuxième problème, si elles acceptent encore de le faire, ça voudra dire qu'elles sont totalement captives des marchés financiers qui sont devenus toxico-dépendants des banques centrales et qu'on ne sortira jamais de cette situation. Or, ça fait des années qu'on le dit, il faut sans tarder restreindre les liquidités mondiales dont l'abondance, quand elle se déplace d'un actif à l'autre et ce de plus en plus vite, est devenue un danger pour tous les marchés. Donc là, on est au pied du mur.
Il y a d'autres solutions ?
La deuxième possibilité, c'est que les banques centrales n'agissent plus nécessairement ensemble, mais chacune dans son coin, qu'elle abaisse ses taux d'intérêt en territoire négatif, comme ce que fait la Banque de Suède, la Banque du Japon et trois autres banques centrales. C'est une manière de forcer les banques à prêter et les investisseurs à investir sur des actifs risqués parce que ça leur coûte cher aux uns et aux autres d'avoir de l'argent qui dort. Et la baisse des taux fait aussi chuter la valeur de la monnaie, ce qui peut permettre de faire repartir le crédit, la croissance et l'emploi. Cette alternative serait la voie de la guerre d'échange. Une voie qui, dans un deuxième temps, aurait l'avantage de faire partir l'inflation, permettre à terme un désendettement et une remontée des taux. Mais avant d'en arriver là, comment vous faites à court terme quand vous êtes un État très endetté, comme par exemple le Japon, pour vous refinancer? Donc, les deux voies de sortie qu'on vient de citer sont très difficiles. Et c'est sans doute ça que veulent dire les marchés, et ça, c'est très rationnel.
Merci Valérie Segond et merci à vous Véronique Pellerin. Chronique à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Le temps pour votre lundi sera un peu plus froid avec quelques averses et un peu de neige vers 300 à 400 mètres sur les Ardennes, les Vosges, le Jura, le nord des Alpes et le Massif central. Température au lever du jour 2 à Lille et Paris, 3 à Strasbourg, 4 à Brest et Ajaccio, 5 à Marseille.